nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Émission page à page sur les ondes de Radio Occitanie. Alors tout d'abord, un bel anniversaire à l'ami marin qui est en Bretagne. Et puis aujourd'hui, je reçois Jean-Yves Lorichès. Bonjour Jean-Yves.
Bonjour.
Avec qui nous allons vous présenter son nouveau roman intitulé Les chasseurs dans la neige et publié aux ateliers Henri Dougier. Un roman qui nous offre la singularité d'une fiction autour et même dans un tableau d'un peintre flamand du XVIe siècle. Mais avant de vous en parler avec mon invité, je vais vous présenter une autre de mes lectures coup de cœur. Il s'agit d'Une vie à coucher dehors, un recueil de nouvelles de Sylvain Tesson. Cet aventurier écrivain, auteur de nombreux essais et récits de voyage. Alors ce recueil de 15 nouvelles s'inspire de ses déambulations, reportages et documentaires et a reçu le prix Goncourt de la nouvelle 2009. Ce sont des nouvelles au titre singulier comme « L'asphalte »,« Le bug » ou encore « La fille »,« La particule » avec une écriture fluide et puis des histoires insolites qui se dégustent d'une seule traite en nous laissant ce petit goût doux amer. Alors je vais vous lire la quatrième de couverture. En Sibérie, dans les glens écossais, les criques de l'Égée ou les montagnes de Géorgie, les héros de ces 15 nouvelles ne devraient jamais oublier que les lois du destin et les forces de la nature sont plus puissantes que les désirs et les espérances. Rien ne sert à l'homme de trop s'agiter dans la toile de l'existence, car la vie, même quand elle ne commence pas très bien, finit toujours mal. Et puis une mauvaise chute vaut mieux qu'une fin insignifiante. Voilà, le ton est donné pour ce recueil de nouvelles « Une vie à coucher dehors » de Sylvain Tesson.
Page à page, Claire Ambille.
Et merci à notre fidèle Alex pour la technique de cette émission. Alors Jean-Yves, ces nouvelles des quatre coins du monde pourraient-elles vous inspirer? Vous les connaissez?
Non, je ne connais pas ce livre-là, mais j'ai lu d'autres choses de Sylvain Tesson, qui est un écrivain tout à fait intéressant, effectivement. Mais bon, assez différent de moi. Hein. C'est un écrivain qui voyage beaucoup et dans des lointains. Moi, j'ai plutôt tendance à être ce que Giono appelait un voyageur immobile.
Oui,
même
mais...
s'il m'est arrivé aussi d'aller, par exemple, à Vienne, dont on va parler bientôt.
Tout à fait. Voilà. Mais bon, vos livres nous font voyager. Mmh. En tout cas, vos livres, Jean-Yves.
Merci.
Alors maintenant, et oui, nous allons découvrir les Pays-Bas au XVIe siècle, Bruxelles, Anvers, mais également la campagne flamande et ses habitants, et puis le climat plutôt rude dans ces régions et à l'époque. Et puis nous allons parler peinture avec Les chasseurs dans la neige de Jean-Yves Lorichès aux ateliers Henri Dougier. Alors le titre, déjà, c'est celui d'un tableau de Peter Bruegel. Mmh. Et la couverture est justement également la représentation de ce même tableau.
En tout cas d'un détail du tableau.
Oui, d'un détail de... Oui, voilà. Parce qu'il est très grand, voilà. Ce tableau, on va le voir, c'est un très très grand tableau. Et donc là, oui, c'est une petite reproduction, forcément.
Ce sont les chasseurs,
livre.
Justement, qui quand même, c'est la partie centrale,
oui,
qui donne le titre
au tableau.
Oui, tout à fait,
d'où le titre, voilà. Ouais. Alors ce beau roman est composé d'un prélude où le narrateur évoque le tableau Les chasseurs dans la neige, puis d'une partie... où le lecteur assiste à la rencontre du peintre avec une brodeuse dans un village en hiver. et puis une autre partie où l'on suit la jeune brodeuse à la ville, dans la maison du peintre, et puis en fin de roman, on accompagne le narrateur au musée de Vienne, de nos jours, pour admirer justement l'original des Chasseurs dans la neige, et dont la reproduction lui avait donné à rêver pendant plus de 40 ans, et je cite, un face-à-face pour lequel il rejoignait dans le même temps que la scène immémoriale, l'adolescent d'autrefois. C'est un peu comme une boucle.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un livre, effectivement, qui, certes, raconte une histoire inspirée par ce magnifique tableau de Bruegel et qui sort littéralement du tableau, on en reparlera. Oui. Mais c'est tout de même aussi, quelque part, un livre autobiographique indirectement. Et c'est pourquoi il y a effectivement ces deux moments très brefs, hein, mais qui renvoient
en prélude,
et qui encadrent en fait l'histoire centrale.
Hein.
D'une part, donc, qui me renvoie à l'adolescence plutôt, hein, 15-16 ans, qui est effectivement la date inscrite sur cet album de peinture de Bruegel, dans lequel j'ai très souvent et très longtemps contemplé ce tableau.
Donc
c'est aussi une manière de revenir un peu à quelque chose, enfin à une sensibilité adolescente. Et puis effectivement ensuite il y a la redécouverte, la découverte du tableau lui-même au musée de Vienne. Donc c'est une fiction inspirée d'une réalité qui est la vie de Bruegel et le tableau lui-même, mais c'est aussi quelque part un petit peu une forme de retour sur moi-même et sur mon adolescence.
Sur un amour de peinture, d'un peintre, de ce tableau précisément. Et enfin, donc, on termine le roman avec une petite biographie tout à fait bienvenue de ce peintre flamand du XVIe siècle que fut justement Peter Bruegel. En plus, dont il n'existe pas de portrait exécuté de son vivant et dont on ne sait finalement pas beaucoup de choses de façon certaine.
Oui, alors ça c'est effectivement d'ailleurs ce qui m'a aussi séduit, je dirais, du point de vue littéraire, parce que la séduction pour le tableau elle est très ancienne, mais il ne m'était pas venu à l'idée que cela pouvait être le point de départ de l'écriture, mais le fait qu'on sache très peu de choses sur Bruegel, mais suffisamment quand même pour intéresser, c'est-à-dire pour que le peintre quand même s'incarne un peu. Hein. On sait son intérêt effectivement pour le monde des paysans, on connaît un petit peu sa trajectoire de peintre, un petit peu aussi de sa vie privée, mais pas beaucoup. Et dans le fond, ça laisse beaucoup de place à l'imagination. Et en même temps, cette place laissée à l'imagination par le fait qu'on sait peu de choses sur Bruegel, elle est, remplie par les images qu'il a lui-même créées, c'est-à-dire par sa peinture, qui nous raconte énormément de choses. Donc on sait finalement peu de choses sur sa vie, mais à travers sa peinture, on nous raconte beaucoup d'histoires.
D'où l'idée de faire un roman, parce que c'est assez original comme construction. C'est moi, je trouvais que c'était un exercice de style très talentueux, parce que voilà, s'inspirer de faits réels, mais avec peu de matériaux finalement, et puis inventer une fiction, mais qui quand même cadre parfaitement, je dirais, avec l'époque, avec le personnage, avec les tableaux qu'il a peints.
C'est-à-dire tout sort du tableau, effectivement, mais en même temps, il me fallait aussi des éléments, quand même quelques éléments de la vie de Bruegel, puisque effectivement, je fais entrer Bruegel dans son tableau, puisque il devient un personnage de la scène décrite par le tableau. Et en même temps aussi, ensuite, l'histoire sort du tableau, puisqu'elle se déroule dans la réalité de la vie de Bruegel.
C'est vraiment tout un jeu.
C'est un jeu entre le tableau et la réalité.
Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors, si on peut dire quelques mots de Bruegel l'ancien, puisqu'il y a eu aussi Bruegel le jeune, qui était son premier fils, et qui avait aussi le surnom de Bruegel d'enfer. Et il a eu un second fils, c'était Bruegel de velours.
C'est toute une famille, comme souvent à l'époque.
De peintres, de
père en fils.
Alors, c'est un peintre graveur flamand du XVIe siècle, un ami de Rubens d'ailleurs.
C'est son fils qui était ami de Rubens.
Qui était ami de Rubens. Et dont l'œuvre majeure est constituée finalement de, entre autres, de 6 tableaux représentant les saisons. Et dont, bien sûr, Les Chasseurs dans la neige fait partie, puisque puisqu'il représente l'hiver, la période de décembre-janvier dans la campagne flamande. Et ce tableau est d'ailleurs conservé au musée de Vienne en Autriche, contrairement à d'autres comme La Moisson qui est à New York ou La Fenaison qui est à Prague.
Tout à fait. Alors c'est une série effectivement, alors on ne sait pas trop s'il faut dire série des saisons parce qu'en fait il y en a plus que 4, série des mois mais il n'y en a pas 12.
Voilà.
En réalité ça correspond semble-t-il à une manière de d'énumérer les saisons et de les délimiter qui était particulière à l'époque, c'est-à-dire en gros c'était effectivement par deux mois, c'est-à-dire c'était plus affiné que nos quatre saisons.
Les mois, donc, il y avait
des saisons intermédiaires, des dédoublements de saisons, et d'où le fait que c'est effectivement 6 tableaux dont en fait on n'a conservé d'ailleurs que 5 d'entre eux. Il y en a un 6e qui est, peut-être on retrouvera un jour, mais qui n'est pas répertorié quelque part. Et celui-ci correspond effectivement au plein hiver, hein, c'est-à-dire soit décembre, janvier, soit janvier, février, selon les spécialistes, parce qu'évidemment, le Bruegel lui-même n'a pas donné de titre à son tableau. Mais enfin, ce qui est incontestable, c'est que c'est vraiment le tableau de l'hiver. Autant celui de New York est le tableau de l'été
la moisson,
avec les moissons.
Il est tout en jaune, des jaunes extraordinaires, c'est solaire.
Tout est dans les blancs, les gris, les bruns. Et voilà, il y a vraiment une opposition qui est très séduisante, bien sûr.
Alors, on sait quand même que ce tableau hivernal date de 1565, soit 4 ans avant la mort du peintre, et qu'il représente donc une scène d'hiver à la campagne avec une multitude de détails minutieusement représentés et qui donne à ce tableau une réalité presque palpable. C'est très impressionnant et c'est très vivant.
Oui, alors ça c'est l'art de Bruegel, qui est à la fois un art du paysage, hein, c'est quand même un des tout premiers très grands paysagistes.
Oui, 16e siècle.
Parce que le paysage est une invention, ça n'existe pas dans la peinture primitive jusqu'au 16e siècle, il n'y a pas de paysage. Il y a des fonds de tableaux dans lesquels on aperçoit des paysages, mais il y a toujours des premiers plans qui sont des scènes généralement religieuses.
Oui, c'est vrai.
Et donc là, au 16e siècle, évidemment, avec aussi le développement de l'humanisme et donc une évolution générale de la culture et de la philosophie, de la manière de voir le monde, la nature vaut pour elle-même, on peut la représenter pour elle-même, même si elle est aussi évidemment un reflet tout de même de la divinité, mais on la représente et on la magnifie pour elle-même, et on inscrit l'homme dans cette nature, d'où ce magnifique paysage qui est en même temps effectivement une somme de petites histoires qui nous sont racontées, c'est-à-dire non seulement l'auberge avec les gens qui font brûler un feu pour griller le cochon, avec les patineurs qui jouent sur la glace dans toutes sortes de postures, avec un endroit aussi où il y a une ferme qui a pris feu et qu'on essaie d'éteindre.
Il a sauvé le propriétaire.
Alors ça, c'est moi qui l'ai imaginé. C'est moi qui l'ai imaginé.
C'est
un tout petit détail que j'ai mis beaucoup de temps à découvrir dans le tableau. Effectivement, il y a tout au fond une ferme dont on voit très nettement, quand on s'approche beaucoup, le feu qui sort de la cheminée, et l'échelle des paysans qui montent sur le toit pour essayer d'éteindre le feu avec des seaux d'eau, etc.
Il y a plusieurs plans, il y a vraiment énormément de plans.
C'est un tableau monde, en fait.
Alors, le roman qui porte donc le titre du tableau est original puisqu'il invente, comme on le disait, une partie de la vie du peintre ainsi que la naissance de ce tableau, justement, avec tout en conservant des faits réels et historiques. Alors le narrateur donc de ce roman nous raconte en prélude son attrait donc dans sa jeunesse pour un album grand format de tout l'œuvre peinte de Bruegel l'ancien et de 3 de ses tableaux. Alors il y a Les chasseurs dans la neige, il y a Le repas de noces et La danse des paysans, et puis bien sûr le tableau des chasseurs dans la neige qui occupe la double page au milieu de ce grand livre d'art, et bien à sa préférence. Et on peut essayer un petit peu de le décrire. Alors c'est un vaste paysage hivernal avec au premier plan des chasseurs, 3 chasseurs, piques à l'épaule, aux pas qui s'enfoncent dans la neige et qui rentrent avec leur meute et un maigre gibier. À l'arrière-plan, ce sont des montagnes, des sommets déchiquetés qui dominent la vallée. Et puis, entre les troncs sombres qui soutiennent un ciel plombé comme des colonnes, On voit le feu de plein vent devant l'auberge, à l'enseigne décrochée. Et puis il y a un oiseau noir, on ne sait pas si c'est un jet ou une pie. L'étang gelé où justement jouent les patineurs. Un pont de pierre que traverse une vieille femme courbée sous un fagot de bois mort. Et puis le petit village aux clochers et aux maisons encapuchonnées de neige. Et au loin, les méandres de la rivière de glace qui s'en va vers la mer. Il y a aussi un corbeau au vol lourd, et puis la montagne qui paraît hostile, et puis des tours médiévales d'un château. Alors tout ça, c'est vraiment dans un seul tableau, c'est une fresque.
C'est une composition extrême.
Avec aussi la petite ferme en flamme aussi.
Une composition extrêmement riche, et un paysage qui est à la fois réaliste, parce qu'effectivement, c'est le paysage de cette région vallonnée, des Flandres, et qui en même temps aussi,
et de l'époque,
tout à fait, et qui malgré tout a quand même une touche d'irréalisme tout à fait assumée, parce que les fameuses montagnes déchiquetées, il est évident qu'il n'y en a aucune en Flandre. Et en réalité, donc Bruegel a introduit dans son tableau en fait le souvenir des Alpes qu'il avait traversées son voyage en Italie. Il avait fait, comme beaucoup de peintres de l'époque le faisaient, un voyage en Italie pour voir la peinture italienne, était le grand modèle à l'époque. Et il avait fait énormément de croquis pendant son voyage. Il avait dû être évidemment très impressionné par ces montagnes, et il a voulu, pour des raisons vraiment esthétiques et non plus réalistes, donner comme horizon à son tableau ces montagnes inhospitalières, hérissées.
Aux Alpes qu'il avait traversé. Ça, ce sont des faits réels. Il a bien été en Italie, il a bien traversé les Alpes. Voilà. Donc c'est une véritable fresque pleine de détails, peinte avec minutie, un vrai travail d'orfèvre peintre, pourrait-on dire. Et c'est moi j'ai vraiment aimé les ronces par exemple qui sont représentées au premier plan.
Oui.
Voilà, qui sont une vraie dentelle et qui sont d'une finesse extrême. Oui. C'est vraiment fascinant.
Là il y a une technique, il y a une virtuosité technique de Bruegel dans la manière de nuancer aussi les gris lorsqu'on s'approche des branches.
On a vraiment l'impression qu'elles sont vraies, qu'on peut les toucher. Ce côté palpable,
c'est
moi je l'ai ressenti.
C'est plus vrai que la nature.
Oui. Alors je comprends tout à fait l'attrait qu'a exercé ce tableau sur le narrateur du roman et aussi sur la jeune brodeuse que nous allons découvrir. Donc le début de ce roman nous entraîne justement dans un petit village des Flandres en janvier 1565. Une après-midi dans une maison de briques avec un toit couvert de neige, le battement d'une horloge dans l'ombre, et on y découvre Meike, une jeune brodeuse qui pense à cet étranger qu'elle a rencontré à la fête du village à l'automne. Alors il regardait les danseurs virevolter et dessiner dans un carnet, et il l'avait invité à danser. Et elle dit de lui d'ailleurs, je cite, qu'il se dégageait de lui une autorité bienveillante.
Oui, alors c'est vrai que ce qui frappe chez Bruegel, c'est cette empathie qu'il a à l'égard des paysans, ce qui n'allait pas de soi à l'époque. Les différences sociales étaient quand même extrêmement marquées à l'époque. Et la manière dont il a peint, alors dans ce tableau, mais aussi bien sûr dans ses autres tableaux que vous avez cités tout à l'heure, qui représentent des fêtes paysannes, des noces de village, il n'aurait pas pu peindre de manière aussi vivante, précise, s'il n'avait pas eu une forme d'affection pour
tout
ce...
Tout à fait.
Et donc peut-être c'est cette intuition que j'avais d'une sorte de relation privilégiée de Bruegel avec ses paysans qui a sans doute suscité cette invention donc d'une histoire, d'une amitié un peu exceptionnelle, idéale,
entre
Bruegel
et cette jeune
fille que j'ai voulu un petit peu au-dessus du monde purement paysan pour qu'elle puisse justement de manière vraisemblable être sensible, mais qui est quand même temps une villageoise, donc son père était marchand, mais il a été tué par des soldats sa mère et elle vivent difficilement, donc elle a quand même été un peu instruite, elle a appris à lire et à écrire, donc je l'ai prise juste un tout petit peu dans la partie supérieure du peuple villageois. Et donc, voilà, elle a rencontré Bruegel.
Et donc, il va l'inviter à danser. Et donc, il lui dit qu'il est peintre et qu'il aime peindre justement les paysages et les fêtes. Et les jours suivants, en fait, Meike regarde autrement le paysage familier. Il va lui donner aussi il va lui communiquer finalement elle a une curiosité par rapport à lui et ça va lui donner un regard différent sur le monde qui l'entoure. Son monde familier finalement il va le regarder d'une manière différente.
Voilà, il y a une sorte d'échange en fait, qui se produit puisque effectivement lui-même lui révèle ce qu'elle a sous les yeux parce qu'il lui montre ses carnets de croquis et à travers cela elle comprend que le paysage qu'elle a quotidiennement sous les yeux peut-être quelque chose de beau
peut-être
la beauté parce qu'elle n'a jamais vu de vraies peintures, enfin elle a vu peut-être quelques tableaux religieux un peu dans l'obscurité de l'église mais elle n'a jamais vu de grands tableaux de ce type, donc il lui apprend quelque part à voir, mais en même temps elle-même aussi est une sorte de médiatrice qui ouvre à Bruegel je crois ce paysage, enfin c'est ainsi que je l'ai imaginé au rêver,
c'est-à-dire qu'elle est s'apporte mutuellement.
C'est aussi à cause d'elle qu'il en partie qu'il revient dans ce village.
Oui, tout à fait.
Donc c'est elle aussi qui l'aide à entrer dans ce paysage. Donc il y a une sorte de relation d'échange assez égalitaire dans mon esprit en tout cas.
Et quand il lui montre justement dans son carnet tous les éléments de ce futur tableau, on retrouve exactement donc tous ces, on a l'impression d'être toujours dans ce tableau.
Voilà, parce que j'ai supposé qu'effectivement, je supposais que Bruegel avait fait des croquis, ce qui est très probable, parce qu'il ne pouvait pas dessiner tout ça de mémoire, c'était impossible.
Et elle est fascinée, donc là, voilà, Meike est fascinée de voir fixer le décor et les menus faits de sa vie. Et quand elle lui demande ce que représentera le tableau qu'il prépare, eh bien, il lui répond que ce sera un grand paysage enneigé et lui-même lui décrit également tout ce qu'il va mettre dans son tableau, les chasseurs, la meute, les temps gelés, les patineurs. Et on vit, la lecture est on est dans le tableau.
C'est-à-dire quand on voit
tout le long de la lecture.
Quand on contemple ces très grands tableaux et qui en même temps ont été peints il y a si longtemps,
on ne peut qu'être
fasciné par l'idée de qu'ils ont été effectivement faits, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas toujours été ce chef-d'œuvre accompli qu'on a sous les yeux, mais ils ont été produits dans des circonstances précises, par étapes, et on a envie de reconstituer ça, une sorte de genèse du tableau.
Mais elle est
évidemment hypothétique, mais elle n'est pas invraisemblable.
Non, pas du tout. Et puis alors, un des personnages, je dirais, personnage omniprésent, bien sûr, c'est la neige.
Oui.
Sa beauté magique, je cite, sa blancheur phosphorescente qui recouvre le sol lui donne l'impression de marcher à la surface de la lune. C'est vrai que cette ambiance de neige, ce côté immaculé, ça apporte beaucoup. De toute façon, c'est omniprésent jusqu'aux dernières pages du roman, d'ailleurs. Elle est présente, cette neige. Tout comme aussi le feu. J'ai remarqué que le feu avait une place importante également dans ce roman, avec les feux de cheminée à l'auberge, le feu de cheminée à la maison de Meike, mais aussi avec l'incendie, justement, de la ferme au cours de la promenade de Bruegel dans les bois. Donc, le feu est un élément aussi magique.
Et puis, il y a un jeu d'opposition de contraste à la fois je dirais bien réel il ne faut pas oublier quand même que d'après les historiens en plus cette année 1565 apparaît-il était une année particulièrement rigoureuse c'est une période très froide de manière générale toutes ces années-là
sont des
périodes très froides et donc le feu est là tout simplement de manière très concrète et matérielle pour réchauffer mais aussi pour des raisons je crois esthétiques, c'est-à-dire que Bruegel veut inscrire dans ce grand paysage qui est tout en blanc, en gris, en brun quelques touches de couleurs plus vives et en particulier ce
couleur
feu
chaude,
qui est devant,
voilà,
devant l'auberge et on voit bien là le plaisir qu'il a
le
à
jaune,
inscrire
quelques
jaunes, quelques rouges, quelques oranges
des couleurs donc le feu, même en la lecture Bruegel aime bien être devant la cheminée la jeune brodeuse également c'est convivial le devant d'une cheminée
ce qui fait la séduction de la neige, c'est aussi que par contraste elle appelle au refuge, au fait de se mettre au chaud,
oui,
à la cheminée,
oui,
etc. Enfin,
fait,
ce sont des expériences finalement très anciennes et qu'on peut toujours vivre aujourd'hui, quoique dans des conditions moins dures qu'au XVIe siècle.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc c'est vraiment un très beau roman. Alors donc la deuxième partie, bon ben je la laisse découvrir au lecteur, bien sûr. Mais j'ai beaucoup aimé ce roman plein de poésie. On retrouve la poésie et la belle écriture de l'auteur, hein, qui l'écriture qui le caractérise. Et puis et d'ailleurs ce livre m'a fait penser à un autre de vos livres, L'hiver en Arcadie.
Oui, oui.
Forcément, lié à cette neige. Là, c'était dans un jardin, dans l'hiver en Arcadie.
Oui, oui, oui. Ça se passait dans une époque contemporaine.
Plus contemporaine.
Mais il y a dans un paysage enneigé quelque chose d'intemporel, je crois. C'est ça aussi qui nous séduit. C'est-à-dire la neige, finalement, efface les marques de la modernité
du temps.
Et inscrit dans une sorte d'éternité.
Et quand Bruegel va montrer le tableau fini donc à Meike, elle va avoir cette phrase, on peut lire: alors l'immense paysage blanc s'ouvrit, établissant l'hiver au milieu de l'été. Oui. Et c'est tout à fait ça, ce tableau, oui. il s'impose majestueusement.
J'ai imaginé qu'elle découvrait le tableau dans une saison opposée au tableau.
Tout à fait.
Et que le tableau prenait toute la place de la réalité, en fait.
Mais donc, c'est un très beau roman, original, justement, par la construction, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, on imagine bien que la saison de l'hiver, la neige, sont votre saison préférée. La neige, vous aimez la neige, vous aimez ce blanc.
En tout cas, c'est une saison que j'aime, oui. Après, je crois que j'aime toutes les saisons, en réalité.
Mais il n'y a pas une préférence
celle-ci, peut-être, particulièrement, quand même.
Voilà. Et donc, le choix de ce roman, de cette construction, donc, vous tenez à cœur de faire...
Oui, c'est construit, je crois, d'une manière un petit peu... C'est vrai qu'en réalité, j'ai commencé par écrire cette petite introduction qui reliait ce projet à cette émotion d'adolescence. Et ensuite, j'ai écrit la toute dernière partie qui est cette petite biographie de Bruegel.
Oui.
Parce que j'avais besoin, pour moi, pour écrire, pour moi,
bien.
En tant que... écrivain, j'avais besoin d'abord de mettre en place quand même les faits connus, hein, et pour pouvoir ensuite être libre d'imaginer à partir de ces faits. Après, du point de vue du lecteur, évidemment, il était bien préférable que cette petite biographie soit à la fin. C'est-à-dire qu'on laisse l'imaginaire d'abord se déployer, et puis qu'ensuite, on donne quelques informations. Voilà.
Réel, donc, qu'on peut recouper avec ce qu'on vient de dire.
L'ordre de la lecture s'est inversé par rapport à celui de l'écriture.
Ben, merci beaucoup, Jean-Yves, pour
merci
ce beau
vous,
roman et pour votre fidélité à page. Je le rappelle, Les chasseurs dans la neige, aux ateliers Henri Dougier de Jean-Yves Lorichès. Alors, prochain rendez-vous de page à page, je recevrai Christophe Guillaumeau pour son nouveau roman policier intitulé La chance du perdant aux éditions Liana Lévy. Et puis on se quitte avec une musique choisie par mon invité Jean-Yves.
Oui, Marin Marais, donc c'est une pièce pour viol de gambe, voilà, 17e
donc,
siècle.
Voilà, donc ça rentre tout à fait dans l'époque.
En tout cas, un siècle après, mais c'est le même climat.
Bon, merci beaucoup Jean-Yves.
Merci à vous.
Adiciat. Thank you. Thank you.